vous écoutez la seule et unique web radio consacrée aux ovnis, aux phénomènes paranormaux, aux complots d'État, aux manipulations gouvernementales, aux sociétés secrètes, aux mystères de pyramides. Bob vous dit toute la vérité, 24 heures sur 24.
Jour J-5 avant de vous retrouver là-bas, du côté du Nouveau Monde, comme nos ancêtres l'appelaient, au Québec. Je serai là-bas pour 5 jours, aux côtés de Richard Glenn, du site Ésotérisme Expérimental, qui est un partenaire et devenu un ami maintenant, puisque nous avons les mêmes valeurs et nous pensons la même chose et nous essayons de faire avancer les choses de la même façon. J'y serai pour le congrès UFO 401. Et il était normal que 5 jours avant mon départ, et j'accueille une nouvelle fois Richard pour évoquer cet événement, car c'est un événement du côté de Montréal. Salut Richard.
Ah oui, bonjour Bob. Montréal.
Montréal. Puis,
oui, le Nouveau Monde, ça va être un peu comme l'astronaute français, là, ça va être notre envolée, on part en orbite ici à Montréal la fin de semaine du 31 mai, 1er juin, et toi, c'est 2 semaines plus tard en France, à Paris. Ouais.
Nous, on fera les 2 semaines plus tard, on fera les rencontres du mystère et de l'inexpliqué, 2 jours avec 27 conférences, donc ce sera, mais sur des thèmes plus variés que sur l'ufologie, mais nous, on va revenir quand même, Richard, sur ce qui nous attend, parce que tu as préparé, j'ai regardé, mais un programme exceptionnel qui, durant ces 2 jours, devrait scotcher quand même tous les gens qui sont à la fois présents, qui seront présents dans la salle, mais pas que, parce que tu as eu une idée lumineuse, c'est-à-dire que aux 4 coins du monde, on va pouvoir suivre ce congrès par le biais d'Internet.
Oui, c'est une grande première de notre côté d'organiser une activité comme celle-là. On en a organisé souvent des conférences, des fins de semaine de congrès, mais là, c'est la première fois qu'on distribue des passes pour avoir le mot de passe par Internet aux gens qui vont prendre le billet, qui est le même prix que ceux qui assistent dans la salle, et qui permet à des gens de France, de Belgique, de Suisse, on en a d'Algérie, on en a de Venezuela, d'Allemagne, de l'Ouest canadien, qui ont déjà pris leur passe, et ils vont pouvoir entrer dans la salle du congrès simultanément, et même que tous ceux qui sont conférenciers anglophones, ils vont pouvoir entendre la traduction simultanée dans leur ordinateur, ou alors s'ils ont le petit bidule qui permet de voir dans la télévision de la maison, du salon, ça va leur permettre d'assister au congrès, c'est en haute définition tout le temps, et je dois le préciser, le mot de passe n'est pas transmissible, on peut pas donner un mot de passe qu'on a pour assister à quelqu'un d'autre, à un ami, à un voisin qui n'aura pas payé, parce que c'est accroché à ce qu'on appelle le IP de l'ordinateur. Autrement dit, quand les gens vont se brancher au début du congrès qui a lieu, pour nous, c'est à 1h samedi le 31 mai, dans l'après-midi. Et pour vous, en France, ben, c'est 6h plus tard, donc ça veut dire 6h de plus que 13, ça fait 19h.
Exactement.
Et à 19h le soir, quand les gens vont 19h moins 15 minutes, probablement, ils vont se brancher, ils ont le mot de passe seulement 2-3 jours à l'avance, et quand ils se branchent avec leur ordinateur, ça détecte l'IP, le IP.
Ouais, l'adresse IP.
Et à ce moment-là, ce n'est qu'avec cet ordinateur-là qu'ils pourront suivre en simultané le congrès de Montréal. Et par après, tous ceux qui auront assisté aux conférences en salle ou par Internet pourront retrouver en reprise, et eux, seulement eux, qui auront payé leur billet d'entrée. Pour nous, c'est 60$ au Québec. Et pour vous, en France, en Europe, c'est 40€. Je pense que c'est un prix très raisonnable.
Oui, bien sûr. Ben pour le programme qu'il y a et pour la technologie mise en place, c'est complètement raisonnable. On va essayer de le détailler, ce programme, parce que ça commence quand même avec l'arrivée dans l'auditorium à 12h45, heure québécoise. Et puis, 15 minutes plus tard, c'est l'ouverture du congrès.
Exactement, avec évidemment, l'arrivée de Bob. On te garde en coulisses jusqu'au moment où là, après la publicité, pas la publicité, mais la musique de début et tout, et là, notre arrivée de Bob sur scène avec le public qui a très hâte de rencontrer le fameux Bob de l'émission qui est devenu très célèbre ici, on en parle partout. On peut pas échapper à l'émission Bob vous dit toute la vérité, ici aussi au Québec on en parle, puis je sais qu'il y a beaucoup de gens du Québec qui sont abonnés au Club Bob.
Oui, on a pas mal de Québécois, je dis toujours que c'est le deuxième pays d'abonnement, c'est-à-dire que vraiment, c'est le deuxième pays, c'est là où je vois le plus grand nombre d'abonnés après la France, bien sûr, devant la Belgique et devant la Suisse. Donc, pour te dire que c'est très suivi au Québec. C'est pour ça que c'est pour moi un honneur d'aller à la rencontre des Québécois, surtout des Québécoises. Et,
ah, ouais.
et puis comme ça, je vais enfin découvrir votre beau pays, parce que depuis le temps que je veux mettre les pieds chez vous, voilà, tu me permets de le faire, parce que je rappelle que je suis invité. Donc, et alors là, c'est un vrai plaisir. Et que t'as fait...
tapis rouge, mon ami.
Bah,
tapis rouge.
Voilà, bah, écoute,
comme présentement, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais à Cannes, on a un Québécois, ouais, qui s'appelle Xavier Dolan, qui vient de présenter son film. Il n'a que 25-26 ans.
Ouais.
Et on pense qu'il est promu pour peut-être la Palme d'Or de Cannes.
Ah.
Et c'est un Québécois. Alors, ça montre à quel point il y a un échange culturel qui se fait entre les deux pays, peut-être mieux même que sur le plan économique et politique. Hein? Bon, alors, le congrès, ce que j'ai appelé UFO 401, c'est, je l'ai déjà expliqué, parce que quand on va à l'université, on commence les études en 101, psychologie 101, premier niveau. Deuxième niveau, 201. Troisième niveau, 300. Puis là, on est rendu au quatrième niveau, en ufologie, 401. On ne recommence pas là, la chasse au trésor des petits boy scouts là, qui veulent trouver des traces d'atterrissage de soucoupes volantes, des petits indices qui vont les amener au trésor. En l'occurrence, le trésor, ça serait peut-être de rencontrer l'extraterrestre, d'être invité à monter à bord d'une soucoupe volante. Ça, c'est une méthode qui est très ancienne, puis je pense qui est très enfantine. Alors que le UFO 401, c'est carrément de se dire, écoute, le phénomène, on n'en discute pas, c'est une réalité. Elle nous est évidemment cachée. Elle est même dénaturée par les grands médias. Et devant ça, comment peut-on garder notre équilibre, notre sérénité en se disant, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'on cache les informations? Le docteur Stephen Greer, que j'ai rencontré, a organisé le fameux Disclosure Project au début des années 2000. Puis qu'est-ce qui est arrivé de tout ça? Alors qu'au Disclosure Project, tu avais des astronautes, tu avais des gens de la NASA, tu avais des gens militaires, tu avais des gens dans tous les domaines qui ont une très, très haute crédibilité sociale, sont venus exprimer leur témoignage que oui, quand on ouvrait des silos nucléaire, tout de suite arrivaient des ovnis qui neutralisaient tout ça. C'est une ingérence sur le territoire américain. On n'y peut rien. On ne sait pas qui ils sont. On ne sait pas quelle est leur compétence technologique. Ça nous dépasse. Et à partir de là, on met le couvercle, la chape de plomb, on n'entend plus à peu près plus parler. C'est la même chose chez vous. J'écoute les émissions de Bob et je vois les invités que vous recevez. Je dois saluer en passant Thibault Canutti. La qualité exceptionnelle de sa dernière intervention sur la biographie de Jacques Vallée, c'était génial. Hein?
Mais tu sais que j'adorerais avoir Jacques Vallée, je me bats pour l'avoir. Alors, je peux te dire que je désespère pas. Tu sais, Jean-François Clairvoy, qui est passé tout à l'heure à 21h, on a mis un an hein, pour l'avoir. Donc moi, je suis assez pugnace, tu sais, je ne lâche pas. Je suis un peu comme le chien qui a son os, tu sais, je le ronge jusqu'à ce que... Et on n'est plus, je ne lâche pas l'affaire. Donc je ne désespère pas d'avoir un jour Jacques Vallée. Je sais que là, ça faisait quelques mois que je voulais un invité très... très très demandé ici, qui ne pouvait pas ou qui refusait. Et ça y est, on l'aura au mois de juin. Je ne peux pas dire parce que ça va être une surprise, mais ça y est, j'ai réussi à l'avoir. Donc tu vois, et puis tu sais, la radio prenant de l'ampleur, les invités étant de plus en plus importants et de qualité, ça rassure aussi les autres qui hésitaient à l'époque. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, et c'est vrai que Thibault, ce jour-là, a fait une très belle présentation de Jacques Vallée, qui est un personnage incroyable.
En passant, le dernier livre de Jacques Vallée s'intitule « Stratagème ». Hein? Je ne sais pas si vous l'avez en librairie en France. Moi, j'ai un collaborateur qui s'appelle Pierre-Charles Dubreuil.
Ouais.
Il est un érudit qui a une collection de livres qui connaît tout en français et en anglais. Et il se demande, est-ce que « Stratagème » est disponible à Paris ici? Il n'est pas trouvable, et si on le commande, il coûte une fortune.
Écoute, il y est sur le Amazon américain. Je sais que Gildas Bourdet, je crois qu'on l'a. On l'a sur le, tu vois, je suis sur Amazon.fr, et on a Jacques Vallée Stratagème. Il y est. Voilà. Il vaut cher, hein. En France, il vaut 65€, hein, quand même, hein, d'occasion. T'imagines? 65€, ça fait à peu près $80 chez toi, un truc comme ça, $90. Voilà. Et en français. Donc, voilà. On en parlait. Gildas Bourdet en avait fait un sujet sur son blog. C'est vrai que c'est un joli bouquin, mais il coûte cher. Hein, voilà.
Oui. Ben, l'idée, c'est qu'avec Thibault, on a fait le tour d'horizon de toute l'évolution de la compréhension du phénomène OVNI. Mm-hmm. Avec Jacques Vallée, qui, lui, a commencé Nuts and Bolts, là, la chasse aux pistes, aux jeux de pistes pour trouver des traces, etc. Puis il a monté. Puis il est arrivé à des niveaux où, justement, notre congrès UFO 401 va atteindre. C'est-à-dire qu'il y a un aspect psychologique, psychique, qui va bien au-delà de la matière et qui nous met en contact avec une réalité qui est aussi physique, qui est aussi matérielle, mais qui, surtout, d'abord et avant tout, est une intelligence supérieure. Mmh. Et ça, c'était merveilleux à entendre. Et ça, moi, ça m'a rassuré en me disant, écoute, on ne fait pas fausse route en s'en allant dans UFO 401. Mmh. On commence avec, comme invité, Bleuette Dio, que vous connaissez certainement.
Bien sûr.
Oui, alors, elle nous rappelle avec son livre « Histoire secrète des civilisations » que le chaînon manquant, on ne le retrouvera jamais, puisque des êtres de civilisation avancée, appelons-les extraterrestres, ont modifié un code génétique d'êtres qui étaient sur Terre, puis c'est ça qui est le chaînon manquant, parce qu'on est devenu des êtres sapiens. Alors, à partir de là, on a créé des sociétés, des civilisations. Il y a eu des passages de civilisations qui sont disparues sur Terre, les hyperboréens, qu'on appelle aujourd'hui les Grands Blonds. Ensuite, il y aurait eu la Terre de Mu, il y a eu l'Atlantide, et maintenant notre civilisation. Et malheureusement, un peu comme dans toutes les autres, c'est comme les respirations de Brahma. Il y a une évolution, il y a une involution. Il y a une évolution, il y a une involution. Alors, il y eut un soir, il y eut un matin, comme disent dans la Bible, il y eut un soir, il y eut un matin. Ces civilisations-là sont apparues, ont fleuri, ont grandi et ont disparu. Et la nôtre est peut-être dans les derniers moments, d'une disparition catastrophique, peut-être. Ou alors, moi, je suppose et j'espère que ce soit l'éclosion d'un nouveau Big Bang. On a connu le Big Bang de l'univers, on sait l'histoire, là, il y a 13 milliards d'années, 13, 14 milliards d'années. Big Bang, c'est le moment où il y avait un rien, et tout d'un coup, tout est apparu en explosion Big Bang. Bon. Pourquoi? Parce qu'il devait y avoir quelque chose dans ce qu'on appelle chez les Grecs le nouménal, avant que ce soit dans le phénoménal, et c'était une accumulation d'une tension, d'une pression, d'une énergie qui a éclaté d'un coup. Et là, je suis en train de me demander si la société humaine avec Internet, avec la rapidité des data, des informations, des connaissances, des compétences, on n'est pas sur le bord d'avoir un éclatement social mondial. C'est-à-dire que les gens vont partout sont informés. Quand il y a eu des révolutions, la révolution arabe a été beaucoup provoquée par les réseaux sociaux d'Internet. Alors, il y a quelque chose qui peut se produire bientôt. Regarde, toi et moi, là, on fait un travail parallèle, chacun de notre continent. Là, et on amène les gens à ouvrir. C'est quand même pas encore la grande majorité, mais arrivera un jour là, la goutte qui fera déborder le vase, et là, les gens vont dire, ben oui, on savait déjà tout ça, on suivait ça. D'ailleurs, c'est ta formule dans tes émissions. Plus jamais vous me pourrez dire « je ne savais pas ».
Ben oui, mais parce que c'est ça qui est le plus important, je crois, Richard. C'est de dire « vous faites ce que vous voulez de l'information, mais au moins, nous, on vous la donne. Après, vous en faites ce que vous voulez. » Et Dieu sait si beaucoup de médias n'osent même pas la donner, l'information. Quelle qu'elle soit, d'ailleurs. Tu sais, ce n'est pas valable que pour les ovnis. C'est aussi valable pour, tu le sais bien, pour l'agroalimentaire, pour le nucléaire, pour tout ça. Il y a tout un pan de la communication qui s'interdit, en tout cas, de dire les choses qui fâchent. Alors que nous, avec la liberté qu'on a trouvée sur Internet, on peut se permettre ça.
Oui, mais jusqu'à quel point, Bob? Justement, c'est une des questions que je vais poser à Bob, parce que tu viens en tant que co-animateur, communicateur. Oui. D'ailleurs, toi-même, tu vas présenter un topo que tu as présenté, je pense, à Toulouse, là, Rock Soccer.
Oui. Tu m'as demandé de présenter le projet, Bob, vous dites la vérité, la radio, les thèmes que j'aborde. Je le ferai avec grand plaisir. Tu sais, dès que je parle de moi, ça me va, tu sais.
Non, mais c'est pour moi, c'est fascinant. On vient de préparer un document qu'on remet à tout le monde à l'entrée, de 4-5 pages photocopiées. Et il y a deux colonnes. Il y a la colonne Richard Glenn d'un côté, la colonne Bob Belanca de l'autre côté. Et je remarque qu'on a un parcours qui est assez semblable tous les deux. On a fait de la radio, on a fait de la télévision, on a travaillé dans la communication, et maintenant on est tous les deux sur Internet et on est autonome, producteur, concepteur, animateur, et on n'a pas de compte à rendre à personne sauf à soi-même.
Mais tu sais que c'est le plus grand bonheur que j'ai, moi, tous les matins. On en parlait, tu sais, hier avec Mathieu, on était en train de déjeuner, on était dehors, je dis, tu sais, Il faut qu'on soit fier du travail qu'on a fait en quelques mois, parce qu'on est passé du mainstream, si tu veux, au web. Et il y a, tu sais, il y a quelques temps, le parrain de ma fille est producteur d'émissions de télé, et je lui disais, tu sais, moi, je suis sorti en fait du show business, de la radio classique, de la FM, etc. Et il me dit, je suis un peu en marge. Il me dit, mais t'es fou, Bob. Il me dit, t'es pas en marge. Tu as créé l'avenir, en fait. Aujourd'hui, tu as déjà créé ce qui sera demain. Et il me dit, t'as créé un nouvel système économique, et t'as créé une radio, t'as créé un média. Donc il dit, t'es pas en marge. Et c'est vrai que parfois, je me dis, je suis encore seul sur le web, mais en même temps, quand je vois les gens qui viennent, quand je vois le nombre de personnes qui s'abonnent, qui viennent ici, tu vois, ça me rassure. Je me dis, finalement, je suis dans le vrai. Parce qu'aujourd'hui, regarde, on se parle comme si on était, toi, je sais pas, à deux pâtés de maison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de frontières. Aujourd'hui, Richard Glenn, il est aussi en France, il est autant en France que moi, je suis au Québec. Parce que, donc c'est ça qui est incroyable. Et je pense qu'aujourd'hui, alors on est un peu montré du doigt en étant média alternatif, ce que tu veux, mais l'alternative d'aujourd'hui sera le totalement normal de demain, hein, c'est sûr.
Ben, moi, dans les années 70-80, j'avais débuté mes émissions sur ce qu'on appelle les réseaux de câbles, câblés au Québec.
Ouais.
Vidéotron, National Cablevision, CF Cable TV, Cogeco, partout au Québec, mon émission était diffusée. Ouais. Et on atteignait des cotes d'écoute qui dépassaient très souvent les émissions parmi les plus populaires de Radio-Canada.
Ouais.
Et là, je me suis fait des ennemis parce que d'abord, ils sont tous syndiqués.
Mm-hmm.
Et puis nous, on faisait avec une petite équipe de production. Mm-hmm. Mais évidemment, on allait chercher quelque chose dont personne n'osait parler. Le phénomène OVNI, les fantômes, les réincarnations et tout ça. Et même les techniques de santé. On reçoit des gens un peu comme Mathieu reçoit, lui, dans l'après-midi.
Mm-hmm.
Les gens qui vont nous donner des secrets de ancestraux.
Mm-hmm.
On appelle ça la médecine traditionnelle, celle des anciens. Mais oui, c'est valable. Il y avait des secrets valables dans tout ça. Et donc, mes émissions ont roulé pendant des années comme ça sur en marge, marginale.
Ouais, c'est ça.
Et aujourd'hui, la vague, on sait que la société, c'est comme une vague. On appelle la cloche de Gauss en statistique. Et ça se déplace comme une vague, ça se déplace. Ce qui était marginal autrefois et avant-coureur ou précurseur est devenu plus dans la norme.
Bien sûr.
Et la vague continue à avancer. Et moi, je remarque qu'aujourd'hui, je ne suis plus sur le câble que les gens reçoivent dans leur télévision, dans la maison, mais ce que je diffusais dans le temps, il y a 30 ans, c'est ce qu'on retrouve maintenant sur des chaînes spécialisées à la télévision. Il y a plein de chaînes ici là, qui nous donnent exactement les mêmes sujets qu'on traitait. Même sur le phénomène OVNI, il y a plein de documentaires, d'émissions, soit européennes, américaines, traduites en français, diffusées. Alors, on se retrouve très à l'aise de regarder ça maintenant dans les télévisions. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire, nous, Bob? C'est par Internet. On se dit, là, les gens vont payer parce que ça les intéresse et on va leur en donner encore plus que ce que les broadcasts, on les appelle comme ça, là, les grands réseaux.
Ouais, nous aussi, oui.
On n'oublie pas que le mot média, quand on dit les médias, hein, les médias de masse, média, c'est un mot grec, hein, média stat virtus, ça veut dire la vertu se tient dans le milieu. Média, ça veut dire au milieu.
Bien sûr.
Alors, les médias là qu'on connaît, ce sont tous des médias, pas médiocres, mais qui se tiennent au milieu. Ils veulent pas faire de vagues. Ils veulent pas être dans les limites. Ils veulent pas ni être retardataires, ni trop précurseurs. Alors nous, on a encore le problème d'être acceptés, de garder notre crédibilité, le fameux mot, là, crédibilité. Mais on s'en fout un peu de la crédibilité si on a compris que l'intégrité passe par-dessus.
Ah oui, mais moi je m'en moque aujourd'hui de la crédibilité qui m'est apportée par qui est donnée par les masses médias. J'en ai rien à foutre. Moi, ce qui est important, c'est la crédibilité que mes invités m'apportent et qu'ils donnent eux-mêmes à l'antenne. Moi, c'est ce que je dis, hein, Bob, vous dites la vérité, c'est celle de mes invités, surtout, tu vois. Et ce que je veux dire, c'est pour ça que les invités sont très importants. Moi, je ne suis qu'un poseur de questions, mais quand je vois la qualité des invités, quand je vois les propos tenus ici, je me dis, c'est assez dingue que une station classique ou une télé classique n'ait pas repris ce média. Mais tu sais quoi, je dis, parce qu'on m'a proposé, là, comme on a fait l'émission avec Jean-François Clairvoy, tu vas voir, l'émission de radio, de télé est très très belle. On a des incrustations, c'est une vraie émission de télé. Donc voilà. Et en fait, on me dit, mais pourquoi Yves Cara, qui présente une émission ici, me dit, mais pourquoi tu la donnes pas, t'essaies pas de la vendre à des chaînes? Je dis, mais je vais avoir le même problème. Il faut couper ça, il faut monter ça, il faut aller plus vite, il faut aller faire ceci. J'ai pas envie. Moi, je veux faire de cette antenne un vrai média avec mes codes à moi. J'en ai ras-le-bol d'avoir les codes des broadcasts qui m'emmerdent. Voilà.
C'est formidable. Moi, je te dis, je te fais la colère, Bob, parce qu'on est dans le même terrain, on agit de la même façon. Paul Hélieu, qui était un ancien ministre canadien, qui avait déclaré, alors qu'il était ministre de la Défense du Canada, les soucoupes volantes sont réelles, elles circulent au-dessus de nos têtes aussi fréquemment que des avions de ligne. On a eu une confidence il y a 2 semaines de Chris Hadfield, qui est revenu, lui, de la navette de l'ISS, là, la Station spatiale orbitale, il nous dit la même chose, parce qu'on lui a demandé en privé, mais que croyez-vous, Égypte? S'il fallait que je vous dise la vérité. Il dit, pour vrai dire, pour vraiment dire, là, les ovnis, des UFO, là, il y en a autant qu'il y a d'avions dans le ciel.
Ah oui?
Bon. Alors, on a eu Julie Payette, Marc Garneau. Ce sont tous des astronautes canadiens qui ont eu des implications dans l'espace. Ils reviennent avec le secret. Ils sont maintenus encore eux aussi dans la cachette. Et c'est ça le problème. Ils ont une très, très haute crédibilité. Il suffit qu'ils ajoutent juste un petit mot comme « Oui, les ovnis sont aussi nombreux que les avions qui circulent dans notre ciel. » On n'a pas besoin de nous dire qu'ils en ont vu ou qu'ils ont rencontré des extraterrestres. On s'en fout. Là. Ils ont déjà fait un pas. Ils ont mis le pied dans la porte entrouverte. Et je sais. Et puis Jean-François Clairvoy, il a dit à peu près la même chose.
Oui, bien sûr. Ben, il y revient dans l'émission. Lui, il prend conscience qu'il y a. Il m'a dit un truc incroyable. Il m'a dit quand on est face à toutes ces étoiles, on ne peut pas imaginer qu'on est seul dans l'univers. Et puis surtout, il se dit que ça va être la plus belle découverte de l'homme, bien sûr, le fait qu'il y ait contact un jour officiellement. Voilà. Officiellement, j'ai bien dit. Et puis, pour lui, c'est normal qu'il y ait une intelligence qui puisse venir d'ailleurs. Voilà, en tout cas, il n'imagine pas l'univers avec que des terriens. Voilà.
Alors, je reviens au congrès UFO 401 pour dire que dans l'après-midi du samedi, on reçoit des représentants de groupements ufologiques qui cherchent, qui prennent des témoignages, qui accumulent, qui écrivent des livres pour populariser, faire une pédagogie populaire, si on veut. Alors, on reçoit Gilles Milo, le président de l'AQU, l'Association québécoise ufologique. Christian Comtesse, ils se connaissent ces deux larrons-là, en foire. Oui, Christian Comtesse avec Gilles Milo se connaissent bien et Gilles Milo ici en personne, Christian Comtesse par Skype. Ils vont avoir à se parler ensemble devant le public, ça va être formidable, une belle énergie ensemble. Ensuite, on reçoit aussi Don Dondery, qui est professeur à l'Université McGill pendant des années en psychologie. Et il était à la base de UFO Québec dans les années 70. D'accord. Maintenant, il a travaillé, gardé sa crédibilité dans son petit coin, professeur d'université. Il n'a pas fait de vagues. Là, il vient d'arriver à sa retraite. Voilà, il sort un livre intéressant qui s'appelle « OVNI, extraterrestre et enlèvement alienigène. Un scientifique se penche sur la preuve. »
D'accord. Bon.
Yann Vadin, directeur du groupement Garpin, auteur du livre « Enquêter sur les ovnis pour comprendre notre réalité, méthode, paradigme et champ de l'ufologie ». Ça, c'est dans l'après-midi. On continue avec Marc Saint-Germain, auteur de « L'ère du chaos, histoire secrète de l'humanité » en 2008, et maintenant « Les gardiens du silence, les évidences de l'implication du gouvernement américain dans la censure sur les ovnis et la présence extraterrestre ».
Ah oui, très intéressant ça.
Ce qui termine notre après-midi du samedi. Le samedi soir, mon ami, ce sont des gros canons américains.
Ah.
Alors là, ça arrive, ça déboule un derrière l'autre. Vous les connaissez sans doute. Linda Moulton Hall, journaliste d'enquête, très très connue. Caroline Cassidy, de projet Camelot. Richard Dolan, historien ufologue qu'on voit dans tous les reportages sur l'ufologie américaine. Alfred Lambremont-Weber, qui est un spécialiste, il est avocat. Il a été chargé par Clinton de préparer un protocole de rencontre avec les extraterrestres qu'on va appeler l'exopolitique.
Ah.
Étrange, hein, mais c'est dans notre réalité et on va voir ces personnes-là dans la soirée du samedi.
Génial. Ça va être un joli moment, toutes ces rencontres. Moi, je crois que je vais en prendre plein la tête, parce que je pense que ça va me nourrir dans tous les sens. Et puis, c'est intéressant de voir justement le regard des Américains et des francophones. Ça va être intéressant de comparer tout cela. Et on s'aperçoit de toute façon que la réflexion, elle est la même partout, quand même, à ce sujet.
Elle est la même tout en étant varier par chaque individu.
Bien sûr, chaque individu.
Il y a des gens qui ont une approche plus artistique, plus mystique, d'autres plus scientifique, d'autres guerrières. Ah, les extraterrestres se cachent parce que c'est des envahisseurs méchants qui veulent, un peu comme des voleurs, ils vont arriver la nuit. Hein, les ovnis, des rencontres se font souvent la nuit. C'est dans la cachette, c'est à l'abri de toutes les caméras, puis on veut pas avoir, puis les hommes en noir arrivaient par après pour enlever toutes les traces, toutes les preuves. Alors, les guerriers vont le voir comme ça. Les religieux vont dire, tiens, c'est d'arriver des anges d'autrefois, les messages qui viennent du cosmos, il faut les écouter. Attention, il y a aussi les anges déchus qui peuvent être des méchants, qui veulent troubler l'humanité, qui veulent nous égarer dans l'esprit. Alors, on se rend compte qu'il y en a pour tous les goûts, hein, dans le phénomène OVNI. Moi, je dis que le phénomène OVNI, c'est le sujet le plus, dans le vrai sens du mot, ésotérique. Parce que l'ésotérisme, c'est des connaissances transmises qu'à des initiés. Et si tu es initié d'une certaine façon, tu vois la chose de cette façon, un peu comme si on porte des lunettes. On voit les choses avec la couleur que nos verres portent. Hein. Si on a des verres roses, on voit les choses en rose. Si c'est bleu, on les voit en bleu. Mais l'ufologie, avec la démarche que j'ai entreprise au début, appelez ça ésotérisme expérimental et non pas ufologie expérimentale ou tout ça. C'est ésotérisme, c'est d'essayer de voir à travers, derrière le rideau, voir de l'autre côté et d'écouter tout le monde sans, et un peu comme tu fais, Bob, laisser parler. Pas dire, ah non, t'es dans l'erreur. Non, c'est pas ça. Ah non. Son point de vue, là, lui, il l'a peut-être parce que lui, il est justement de l'autre côté de la montagne. Il voit un horizon que toi, tu vois pas parce qu'on est sur l'autre flanc de la montagne. Il faut donner la chance à tous de s'exprimer là-dessus. Il y a, je le dis avant d'arriver sur l'horaire du dimanche, parce que l'horaire du dimanche, c'est particulier. Là, l'horaire du dimanche, on rencontre des contactés. Bon, ben là, Bob, j'en écoute de chez vous aussi des invités que tu reçois, qui se disent des êtres extraterrestres dans un corps humain, puis d'autres qui sont missionnés, qui entendent des messages, puis qui ont des... Mais il y a une chose qu'il faut reconnaître, c'est que toutes ces personnes-là qui ne se connaissaient pas avant qu'Internet, puis avant que des émissions comme celle de Bob ou la mienne soient diffusées à grande échelle, ces gens-là ne se connaissaient pas et disent les mêmes choses.
Oui, c'est ça qui est incroyable.
Alors là, tu te dis, où est-ce qu'il est allé prendre ça? Je t'entends poser les mêmes questions que je pose à des invités. J'en ai deux, trois là, qui sont anglophones. Bang, bang, bang. Ils donnent des réponses instantanées. Là, c'est la même chose. Ils ne sont pas consultés. Là. Il y a quelqu'un quelque part où il y a une énergie, où il y a un esprit quelque part qui rejoint un dénominateur commun. On est tous sur la même planète. On est tous, j'allais dire presque éduqués à se préparer à quelque chose qui est semblable. Alors, nos invités de dimanche après-midi commencent par Louise Dionne, qui est revenant de New York, est enlevée avec son copain, à bord d'une grosse Cadillac. Et elle va être avec nous dimanche, en personne.
Génial!
Myriam Delicado, même chose, elle est toute jeune, elle est enlevée. Elle rencontre des Hopis dans le désert américain. Et les Hopis lui enseignent des choses, et à un moment donné, ils s'aperçoivent qu'elle fait partie de ceux qui sont dans la nouvelle vague, de ceux qui sont maintenant en contact avec ceux qu'appelaient, eux, les dieux venus du ciel. Et même si c'est une fille, ils l'introduisent dans des rituels qui n'étaient réservés qu'à des mâles, qu'à des hommes. Et il y a Nancy et Jack Malacaria, ça c'est génial, la région de Boston. Jack et moi, on s'est rencontrés ailleurs. Bon, parce que la différence dans la biographie de Bob Belanca et de Richard Glenn, c'est que Bob a vécu quelque chose dont il se souvient. Peut-être aurait-il vécu autre chose dont il ne se souviendrait pas maintenant.
Peut-être
aussi. Et moi, de mon côté, j'ai vécu quelque chose à l'âge de 5 ans et demi avec le phénomène extraterrestre. Ça m'a marqué pour la vie, évidemment. Ça a été un suivi toute ma vie. C'est pour ça que j'ai consacré toute ma vie à ça. Et Jack et moi, on a eu un contact ailleurs qu'ici. Et Nancy, sa femme, ils ont eu plusieurs enfants. Ils vivent heureux, un bon couple qui a une expérience avec le phénomène. Ils ont écrit un livre, mais c'est pas pour faire une fortune. On le sait, c'est pas avec un livre qu'on devient riche, là. Ils sont pas partis de secte, ils sont pas devenus... ils ne font que être disponibles pour parler à des gens qui, eux, vivent le choc. Qu'est-ce que j'ai vu? Qu'est-ce que c'est qui s'est passé dans ma chambre? Il y a quelque chose qui est rentré dans la nuit. La preuve, on a retrouvé des pierres, parce qu'il a marché dans le terrain dehors, on n'a pas d'asphalte, et puis il a marché sur la terre, la bouette.
Ouais.
Ça a rentré sur le plancher, dans la maison. On a les preuves, des traces et tout ça. Alors, il y a beaucoup de... ces contactés-là, là, au lieu de leur jeter la pierre en disant « Non, vous avez des problèmes psychologiques, psychiatriques, là. » En les écoutant, ouais. On s'aperçoit encore une fois qu'il y a des correspondances les uns avec les autres, alors qu'ils ne se connaissent pas. Alors, il y a vraiment un dénominateur commun, encore une fois. On reçoit dans l'après-midi du dimanche, pour clore un peu cet aspect des contactés, Peter Knight.
Ah oui, très bien, oui. D'accord.
Et Peter Knight.
On l'avait eu au téléphone.
Oui, alors lui, ça va être par Skype, c'est le secret des envahisseurs.
Ouais, on avait fait une super émission avec lui, c'était fantastique. Hein. Il a une culture sur David Vincent et ses extraterrestres qui sont et ses envahisseurs qui est fantastique.
Oui, et là, on va nous lui demander d'expliquer pourquoi il a été si fasciné par le phénomène extraterrestre. Il va nous avouer qu'il a été lui-même enlevé et qu'avant lui, son père a été enlevé. Abducté, comme on dit dans le domaine.
Ah ouais?
Eh oui. Alors, ce dimanche après-midi, c'était ouvrir la porte très, très, très grande à tout ce qu'on pourrait croire être farfelu, alors que si, au lieu de prendre, en jetant par des préjugés, la pierre en disant « Ah, c'est des fous, c'est des malades », on prend un recul et on se dit « Hey, attends une minute là. » La veille, on a entendu des ufologues, on a entendu des gens représentant des groupements, des Américains qui sont venus renfoncer le clou le plus possible pour dire « Oui, c'est une réalité. Oui, on a... » Mais, est-ce qu'ils sont prêts à faire le pas? C'est pour ça que j'ai déplacé au dimanche tous les contactés, les gens qui ont des messages, qui ont un vécu. On attend la preuve en laboratoire. Ben oui, mais ces gens-là disent « La preuve en laboratoire, c'est nous. » On a vécu une expérience paranormal, exceptionnel, on peut vous donner des détails, même par hypnose ou autrement. Là, on va dire, ah oui, mais l'hypnose, c'est peut-être qu'il crée des faux souvenirs, tu sais, bon. Non, allons-y par la base. Il y a tellement de gens qui ont eu des expériences, puis là, on en a une petite panoplie, quelques-uns que j'ai répertoriés, que j'ai choisi trier sur le volet, et Peter Knight, avec son expérience d'enlèvement, et son père avant lui. Et ça arrive très souvent qu'il y a comme quelque chose de génétique qui intéresserait les extraterrestres, parce que c'est de lignée familiale que ça se contacte et ça se... Alors voilà. Et on finit l'après-midi avec ce que j'appelle, moi, une table ronde.
Ah.
Un peu comme les chevaliers de la table ronde. La table ronde, c'est pas un débat d'opposition, là. J'en ai déjà parlé dans la dernière rencontre qu'on a eue ensemble, Bob. C'est une rencontre où on prend un café ensemble, les ufologues, là, asseyez-vous autour d'une grande table, qui va être métallique, là, on va avoir l'air d'être assis sur une table dans une soucoupe volante, et une grande table qui va faire que les 7-8 ufologues sur place vont être assis autour de la table, et par Internet, on va avoir, c'est pas vraiment Skype, c'est un autre réseau qui nous permet d'avoir 7-8 personnes en même temps.
Ah, très bien.
Et tout le monde va participer à une espèce de, je dirais pas un débat, une table ronde qui va être basée sur, tiens-toi bien, une idée originale. À chaque fois que les gens vont entrer dans la salle, vont sortir pour une pause dans l'après-midi, vont revenir, vont retourner pour le souper, vont revenir, il va y avoir des tubes, 5 gros tubes de plastique opaque, pas transparent, mais opaque, blanc, à la porte d'entrée, près de la sortie de la salle. Et il y a des codes qui sont marqués dessus. Et ces codes-là correspondent à le document que je remets à tout le monde en entrant dans la salle, à la conférence. Il va y avoir 7 étapes, 7 questionnements. Alors, tiens, je te donne les exemples. Le premier, c'est « Ce qui m'a conduit ici au congrès UFO 401, c'est... » C'est quoi? Qu'est-ce qui t'a amené ici au congrès UFO 401? C'est peut-être parce que quelqu'un t'a parlé de ça.
Bien sûr.
Et je ne crois pas, je ne connais pas grand-chose à tout ça, mais je viens ici pour apprendre. Je m'intéresse depuis longtemps à ces sujets-là et je pense qu'ici, on va avoir des informations complémentaires. J'ai très hâte. Ça peut aller jusqu'à l'extrême. J'ai déjà mon opinion de fait sur tout ça, puis j'ai des questions à poser aux conférenciers. Parce qu'en effet, au cours de tout le congrès, les gens, il y a 2 micros installés dans les allées dans la salle, et les gens pourront aller au micro, et quand on voit quelqu'un au micro, ça veut dire qu'il y a quelque chose à dire ou à intervenir, on lui donne la parole à un moment propice, il pose la question. Tout est filmé simultanément, donc on avait besoin d'un micro, on peut pas poser la question de la salle sans qu'il y ait de micro, on n'entendrait pas bien le son de la question, alors on demande aux gens, présentez-vous au micro. Et donc, dans ces tubes-là, les gens, à chacune des étapes, ont des balles de golf dans un gros panier. Ils prennent une balle de golf, et puis ils vont la déposer dans l'un des 5 tubes qui correspond le mieux à son opinion, parce qu'on a les sur la feuille, je t'en ai remis une copie, là, c'est UFO 401-03,
ouais.
Page 03. Alors, ça nous donne une idée que, pour nous, ça va être un grand plaisir de faire participer le public de manière très, très active en disant, donnez votre opinion.
Bien sûr. Hein.
C'est impersonnel. On ne sait pas qui a dit quoi, pour qui vous avez voté ou dans quel tube vous avez mis votre balle. C'est pas important. C'est de savoir ce que les gens pensent dans la salle. Alors, on aura quelqu'un qui va vider les tubes après chaque étape. Et à la fin, à la table ronde, tous les ufologues sont autour d'une grande table ou alors par Internet, ils vont nous rejoindre. Et là, on va leur demander les mêmes questions à ces gens-là qui sont des spécialistes. Qu'est-ce que c'est que... je t'en donne d'autres exemples?
Vas-y.
OK, la question numéro 2. La réalité extraterrestre sur la Terre est... Il y en a le premier tube, ça dit « Je crois que les ovnis sont d'origine extraterrestre.
Mm-hmm. »
Deuxième tube, « Jamais il n'y a eu d'humanoïdes d'origine extraterrestre ici sur Terre. Hein? » Tu mettras la balle de golf dans le tube que tu penses qu'il correspond le plus à ton idée. Troisième tube, « Les extraterrestres se cachent pour ne pas troubler notre évolution. » Quatrième tube, si jadis il y a eu des extraterrestres sur la Terre, ils sont tous disparus, repartis ou exterminés. Ou le cinquième tube, dans une dimension invisible et immatérielle, proche de notre réalité et d'espace-temps. Tiens, je pense à Garnier Mallet, là. Alors, donc, la réalité extraterrestre correspond à quoi dans ces 5 tubes-là qui correspond le plus à ta pensée? Et là, tu prends une balle de golf, tu t'en vas le mettre dans le tube que tu penses que c'est ça, qui est la réalité extraterrestre. Une autre question, là, je donnerai pas tous les détails, mais rapidement, les questions, c'est les informations sur les ovnis et les extraterrestres sont cachées pour telle ou telle raison. 5 raisons, les 5 tubes. Qu'est-ce que l'ufologie? Alors, moi, dans un des tubes, on dit l'ufologie, pour un tube, serait une nouvelle science humaine qui naît qu'à ses propres débuts. Une nouvelle science humaine. Le tube numéro 2, ce serait une science dure, mais qui n'a pas encore les outils pour mesurer les faits et les objets d'études. On ne peut pas amener une bottine d'extraterrestre en laboratoire, on n'en a pas. On ne peut pas demander à une soucoupe volante d'atterrir à tel endroit pour aller faire une recherche. Ben, il y a eu des crashs de soucoupes volantes. On sait qu'il y en a eu plus de 70 crashs d'OVNI depuis 1940 à peu près. Parce qu'il y en avait des OVNI bien avant 1947, l'affaire de Roswell. Là.
Ouais.
Bon. Ensuite, pour comprendre, il faut faire confiance surtout à des scientifiques. Tube numéro 1, tube numéro 2, à des psychologues, tube numéro 3, à des journalistes d'enquête, tube numéro 4, à des contactés qui nous apportent leur vécu, leurs expériences, tube numéro 5, sa confiance surtout à soi-même, son ressenti personnel. Les gens iront mettre la balle de golf dans ce qu'ils considèrent comme la chose la plus... qui leur parle le plus. Alors, ça nous amène, si on veut, là, le feedback de la salle. Au cours de toute la fin de semaine, on va accumuler toutes ces datas-là. On va être capable de sortir après une statistique complète. Parce que après le congrès, quand tout sera terminé, nous, on va aller en studio, on va faire les montages de toute la fin de semaine.
Ouais.
Tout va être accessible encore aux gens qui auront payé leur billet pour être assis dans la salle ou leur passe pour nous suivre sur Internet. Là, je lance l'invitation au public français, belge, suisse. Vous êtes très bienvenus. Vous allez sur le site orandia.ca, O-R-A-N-D-I-A.ca. Toute l'information est là. Vous allez dans la section réservation et par PayPal, vous allez 40 euros. Vous allez avoir, dans les jours qui vont précéder le congrès, avec votre courriel, là, ce qu'on appelle le email, vous allez avoir le mot de passe, votre nom d'utilisateur qui, je le répète, est réservé qu'à celui qui ouvre l'ordinateur et se met en contact avec parce que c'est branché avec le IP de votre ordinateur. Et à ce moment-là, après le congrès, vous pourrez revoir le congrès.
Ouais.
Et là, comme je fais, tu connais bien le travail de notre ami Gilles Surprenant, quand on fait une entrevue comme on fait présentement, il rajoute ce qu'on appelle les compléments surprenants. Vous aurez accès aux compléments surprenants du congrès, vous aurez accès aux conférences, mais comme on ne sait pas d'avance tous les propos qui vont être tenus, alors à ce moment-là, on va rajouter, nous, des éléments visuels, vidéo, images, peut-être sonores aussi, qui vont permettre aux gens de voir la cohérence de tout ça. Parce que quand le conférencier nous parle, lui, il va y aller ad lib. Je n'ai pas demandé, moi, aux conférenciers du tout, du tout. Je n'aime pas les conférences toutes prêtes. J'ai déjà reçu un conférencier un jour qui est arrivé avec des feuilles toutes imprimées, puis commence à lire sa conférence page par page.
Ouais.
Oups, là, je l'ai arrêté. J'ai dit, écoutez, un instant, vous connaissez le sujet? Parlez-nous-en. On veut pas de la lecture, là. Si vous voulez qu'on fasse la lecture, vous nous envoyez le document, on va l'imprimer, ouais. On va le photocopier, tout le monde va le lire chez eux. On veut vivant, nous. On veut de l'action vivante, là. La réaction. Puis toi, Bob, puis moi, on est là, tous les deux, là. on est là pour poser des questions.
Ah, bien sûr.
Faire comme tu fais avec ton émission, là. Alors, ça donne une petite idée de, et à la fin, quand les gens vont quitter le dimanche vers 5h30, ça va être le moment de juger le Congrès en utilisant encore les balles de golf et les tubes pour dire très déçu, satisfait, bien satisfait ou très satisfait.
Ouais.
Et là, nous, on aura notre note de passage, j'espère, pour ce premier Congrès. Non. Le prochain aura lieu dimanche le 12 octobre.
Ah oui,
ce n'est que le début, hein. On est parti, là, on n'arrêtera plus. Et le dimanche 12 octobre, là, ce ne sera pas sur deux jours, ça va débuter le matin à 9h, ça va se terminer le soir vers 10h,
ouais.
Et c'est science limite. Les sciences avec limite au singulier, pour d'accord. Dire qu'il y a une limite ouais. Aux sciences, c'est ce qui ouais. Se passe entre nos deux oreilles.
Ouais.
Malheureusement, des scientifiques n'osent pas, parce qu'ils ont peur de perdre leur crédibilité, d'être ridiculisés dans leur milieu. Mais j'en connais, et toi aussi, t'en connais des scientifiques qui avancent et qui vont sur un terrain nouveau, oser.
Ouais.
On le disait en ésotérisme, il faut savoir oser et se taire. Ça fait SOS, savoir, oser, se taire. SOS, save our ship, là, comme on dit SOS. Là.
Ouais.
Mais c'est ça, il faut savoir, il faut oser. Puis il faut savoir aussi se taire, parce qu'il faut pas nécessairement... Toute vérité n'est pas bonne à dire et à faire entendre dans toutes les oreilles. Il y a des films, il y a des émissions de télévision, ils nous disent « Cette émission contient des scènes qui ne sont pas appropriées à des jeunes enfants.
»
Alors, on comprend qu'il y a des révélations, il y a des informations qu'on ne peut pas nécessairement mettre sur la place publique. Et toi, avec ton club Bob, puis moi avec mon club créé, on permet à des gens d'entrer.
Ouais.
Dans le secret. Ouais. D'entrer dans le secret, on se dit, ils ont payé, ils veulent entendre, s'ils sont prêts à entendre, ils vont. Si ça ne les intéresse pas, on ne leur met pas en pleine face, il faut qu'ils payent.
Oui, bien sûr. Alors, Richard, je te propose de faire un petit break dans notre discussion. On va continuer à parler de tout cela dans un instant. Vous voulez réagir, bien sûr. N'hésitez pas, vous avez les réseaux sociaux, le Facebook, Bob vous dit toute la vérité, ou le Twitter, Modiez ou hashtag Bob Vérité. Et puis, je vous rappelle que si vous voulez en savoir plus sur ce congrès UFO 401 pour réserver vos passes, vous allez vous cliquer également sur notre site, sur l'onglet ésotérisme expérimental, ou sur carrément le slider. De congrès UFO 401, vous cliquez, on vous dirige directement sur le site UFO, enfin orandia.ca. Comme ça, vous pouvez réserver vos places et vous pourrez, où que vous soyez en Europe, en francophonie, n'importe où ça parle français, eh bien, assister à ce congrès.
Bob vous dit toute la vérité, 21h minuit.
Alors vous changez rien, je vous rappelle que dans quelques jours, le 15 exactement, je vais vous proposer deux jours de conférences, les 13 et 14 juin prochains, ce sera les premières rencontres du mystère et de l'inexpliqué.
Bob vous dit toute la vérité présente, les rencontres du mystère et de l'inexpliqué. Pour la première fois à Paris, les 13 et 14 juin prochains, 24 conférenciers se donnent rendez-vous dans le 15e arrondissement. Mystère des pyramides, physique quantique, ovni, médiumnité, société secrète, archéologie interdite. Pour ne plus jamais dire « je ne savais pas ». Réservez dès maintenant vos billets en cliquant sur l'onglet prévu à cet effet.
Bonjour, ici Jean-Pierre Garnier-Mallet, qui sera présent aux premières rencontres du mystère et de l'inexpliqué du 13 et 14 juin prochain à Paris. Je vous parlerai du dédoublement du temps, afin de comprendre un principe vital qui fait que le futur est la mémoire du passé.
Magnifique, Jean-Pierre Garnier-Mallet, qui sera donc avec moi, physicien qui voit bien plus loin que le bout de son nez. Vous voulez participer à cette aventure, il vous suffit de réserver vos passes par le biais de ce site internet. Il n'y aura pas de billetterie sur place, hein. C'est très 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 important.
Contrairement à ce que disait Fox Mulder, la vérité est ici. Bob vous dit toute la vérité, 21h minuit.
Dans quelques jours, je vais m'envoler pour le Nouveau Monde vers Richard Glenn qui me tend les bras.
Et ses moustaches.
Ouais, et ses belles moustaches.
Ah oui, j'adore.
Richard, ce sera l'occasion de nous rencontrer pour ce congrès UFO 401. Je voulais te poser une question, Richard. Comment est accueilli le congrès UFO 401? Est-ce que certaines presses en parlent? J'ai vu, moi, je me suis baladé. Certains blogs sur Internet parlent également de ce congrès. Comment est-il accueilli?
Depuis les début des années 90, avec l'affaire de l'OTS, ouais, l'Ordre du Temple solaire, après ça, le Evans Gate, là, en Californie, ouais, James Jones, bon. Alors, il faut saisir qu'il y a eu une douche d'eau froide, hein, puis chat échaudé craint l'eau froide, ou, tu sais, c'est une douche d'eau bouillante, on pourrait dire. Bon. Alors, il y a eu un crash de tout ce qu'on pourrait appeler l'insolite, le monde du paranormal. C'est la première activité au Québec depuis ces années-là, figure-toi donc.
Ah oui, carrément.
Carrément, là. Carrément, là. Là, j'allais dire, là, on essaie de... Moi, le thème de mon émission, c'est l'oiseau de feu d'Igor Stravinsky. Et curieusement, l'oiseau de feu, c'est quoi? C'est le phénix.
Ben oui, il renaît de ses cendres.
Et voilà. Alors, comme tout a été détruit pendant des années, on pourrait dire de 1992-97, alors j'ai quitté le câble à ce moment-là, je suis tout de suite allé sur Internet, et j'ai rapatrié tout ce qu'on pouvait. C'est un peu comme un bateau qui échouait, là, tu sais, là, un crash. Là. On prend les morceaux, on survit pendant des années. Mon site a très bien fonctionné, j'ai récupéré mon public. C'est des abonnements, là. C'est pas des suiveux, c'est pas des sponsors, là. C'est ouvert à tout le monde, puis ouais, tout le monde peut entrer, puis tout le monde peut sortir, comme le magazine Nexus ou comme le magazine Top Secret de Rock Soccer. On s'abonne, on paye, on le reçoit. Quand on arrête de payer, on arrête de le recevoir, c'est tout.
Ouais.
Hein? La même chose pour le club Bob, puis le club créé que j'ai de mon côté. C'est de cette façon-là que les gens qui s'intéressent, qui sentent qu'enfin ils ont des réponses. Une nourriture spirituelle, c'est comme un restaurant. Hein? On rentre, on paye, on mange. Mais si on ne paye pas, on se met à la porte.
Tu sais...
Alors, c'est simple. Alors là, je peux te dire que ça surprend. Et ce qui me surprend le plus, c'est qu'il y avait des gens qui se tenaient à l'écart de ça, de ce congrès-là qui s'organise. Là. Des gens importants et qui me téléphonent. Encore hier, j'en ai reçu deux téléphones. Je pense bien que je vais participer, je vais aller en tout cas assister. Et c'est le premier. Moi, j'ai compris quand Bob nous dit que ça va être la première rencontre.
Ouais.
Hein, parce qu'il y aura un deuxième, ça sous-entend. Hein?
Ah ben oui, c'est sûr, oui. Donc,
Bon. Mais évidemment, le deuxième va être toujours c'est le passé se tient garant de l'avenir. Autrement dit, autant celui-là va être un succès, autant ça nous garantit qu'on va en faire un deuxième puis un troisième.
Bien sûr.
Alors moi, je peux te dire qu'actuellement, on a plus de monde qui sont dans le virtuel, qu'on ne verra pas dans la salle, parce que ce sont des gens qui ont pris la passe. Autant pour les Québécois que pour les Européens. C'est incroyable. Les gens ont compris qu'avec une passe, tu entres dans la salle de congrès, vous pouvez être 3, 4, 5 à la maison à regarder le congrès par Internet,
ouais,
et vous faites partager la facture du 60$ ou 40€ à 5 personnes ou 4 personnes ou 10 personnes. Ça devient très, très abordable pour tout le monde.
Ouais, bien sûr.
Et vous aurez accès au contenu du congrès aussi par après, avec ce qui va être ajouté en complément par Gilles, les compléments surprenants, les montages des conférenciers vont ajouter des images et tout ça par après.
Mmh.
Alors, ça devient très, très, très intéressant. Alors, je peux pas dire qu'on a eu le tapis rouge au Québec. Hein?
Ah oui?
Vraiment pas. Mmh. Vraiment pas. Premièrement, parce qu'on touche encore à des sujets tabous. Parce que les Raéliens, là, Raël, puis les extraterrestres, c'est quoi ces affaires-là? C'est toutes des folies. Ça faisait partie de la désinformation bête, là, simple. C'est comme quand on parle des crop circles, là, les agroglyphes, là, les dessins dans les champs là, de blé là, en Angleterre, puis partout dans le monde. On revient souvent avec l'histoire de Doug and Dave. Deux Anglais qui, avec une planche de bois puis une corde, ils faisaient écraser du blé puis faisaient un motif rond dans des champs. Mais ils savent pas qu'il y a des crop circles qui sont faits en dedans de 15 secondes et qui, si on voulait le faire à main, là, avec la planche de Doug and Dave, là, ça prendrait 3 jours.
Ouais, je sais.
Alors, on veut désinformer la population, on veut discréditer les gens qui en parlent en général. C'est très, très délicat. Et on nous laisse fonctionner, toi, Bob et moi, parce que on n'est pas là à ébranler l'ensemble de la société.
Oui, c'est ça.
Oui. Ben, c'est sûr que on fait notre petit bonhomme de chemin et ça répond à des attentes de gens qui ont la curiosité. Même les scientifiques devraient avoir ce sens de la curiosité. Allons écouter, on va toujours bien voir si ça se tient. Je sais qu'il faut qu'on soit cohérent. Du début à la fin, il faut être cohérent. Il faut pas commencer à lancer des affaires qui tiennent pas debout. Il faut pas non plus être là pour faire de la piastre, comme on dit en québécois. Vouloir faire abuser de la population pour gagner de l'argent à outrance. Moi, je pense que 60 $ ou 40 euros pour deux jours, c'est très raisonnable et ça nous permet, nous, d'arriver à fonctionner. Puis on fonctionne avec des gros moyens, là. Caméras professionnelles, haute définition, des gens qui travaillent même à Radio-Canada qui viennent pour être caméraman et tout ça. Là, c'est quelque chose de gros. Et on a un réseau qui nous permet d'être par Internet privé seulement à celui qui aura payé sa passe ou son billet pour pouvoir voir ce qu'il y a sur Internet. C'est pas transmissible à personne. C'est le IP qui est accroché à l'ordinateur. La traduction simultanée permettra aux gens à la maison de voir et d'entendre le congrès, la colonne, le haut-parleur de gauche, parce que le mot, il y a un G dans gauche, dans le mot anglais, il y a un G. À gauche, ça va être en anglais. À droite, ça va être en français, parce qu'en R, droite français. Et si vous voulez entendre les deux, vous laissez les deux haut-parleurs fonctionner, vous allez entendre la traduction à droite, la version originale en anglais à gauche. Si vous voulez pas, ben vous mettez, soit vous faites ce qu'on appelle pan, droite-gauche. Mais moi, je sais que Bob est invité à quelques très, très bonnes émissions. Au lieu d'être dans la quantité, on est allé dans la qualité. Ah. Et on t'attend à des postes de radio, de télévision pour être en onde et en parler. T'es pas là très longtemps, c'est un gros problème. T'es là seulement pour séduire deux jours. T'arrives mercredi sur les genoux, parce que quand t'arrives à midi et 6 heures déjà chez vous, puis le soir, les émissions se font le soir, à 6 heures le soir, pour nous, il va être déjà minuit pour toi dans ton biologique, là. Alors, c'est pas facile le mercredi. Le jeudi, ça va être déjà plus possible. Les vendredis aussi. D'accord. Samedi, dimanche, on est en congrès toute la fin de semaine. Et le lundi, ben là, tu repars avec mon fils Stéphane qui t'amène sur son gros yacht dans le centre-ville de Montréal, là, dans le vieux port de Montréal, avec sa dulcinée, Nadia. Et puis après, ils vont t'amener où tu auras le goût d'aller, là, dans des places de votre âge. Moi, à 67 ans... Oui, et il te conduira à la maison canadienne qui est en plein bois. Et après, ben le lendemain, vous reprenez l'avion. Et c'est sur la fin de l'après-midi du lundi. Et je sais que tu vas garder contact avec ton public pendant tout ton séjour.
Oui, là, ce qu'on va faire, c'est que bien sûr, on va vous faire vivre ce périple au Nouveau Monde. Je vais prendre des photos, un maximum de photos. On va les poster. Je ferai des phoneurs avec Mathieu pour qu'on tienne au courant un petit peu. Il faudra qu'on se fera des petites incursions tous les deux, Richard, pour tenir un petit peu au courant de ce qu'on a fait. Si on fait des interviews ici ou là, on fera des photos, on les postera. On va faire vivre un maximum. On va essayer de faire du Skype aussi pour pouvoir tenir les gens au courant. Et puis, l'idée, c'est de faire de ce voyage un événement qui va profiter à tout le monde, à tous les Français qui auront suivi, ou tous les francophones qui vont suivre ce congrès, et puis à tous nos auditeurs de la station qui vont découvrir aussi ton univers, parce qu'il y en a plein qui sont pas encore allés sur ton site, qui vont découvrir l'univers de Richard Glenn, le club Richard Glenn, et qui vont peut-être, ça va faire un pont. Enfin, l'idée, c'est vraiment qu'on arrive à faire un pont, si tu veux, entre toi et moi, et je pense que ce voyage et ce premier congrès ufologique va permettre tout cela, en espérant qu'un jour ce soit moi qui te fasse venir ici dans notre vieux continent, pour que tu puisses toi-même après présenter des choses lors peut-être des deuxièmes rencontres du mystère et l'inexpliqué, par exemple, tu vois.
Ah ouais, oui, tiens, peut-être, pourquoi pas. Puis il y a des choses particulière avec ce que je disais tantôt, il y a des choses qu'on ne peut pas lancer sur la place publique. Dans le vécu, mon expérience de vie très originale, très particulière, qui m'a amené à des hauts sommets et à des enfers terribles en profondeur, parce que c'est sûr que quand on est sur la marge, là, sur la limite, on est explorateur de l'insolite, d'horizons qui n'ont pas été explorés par beaucoup de gens. On regarde Jacques Vallée et son mutisme. Il écrit. Il donne l'information, mais il ne donne pas d'entrevue. Jacques Vallée a compris que c'est pas sur la place publique qu'on fait les choses. On écrit comme une lettre. C'est privé, un livre, là. C'est la personne qui reçoit le livre, qui l'ouvre, qui le lit intimement. C'est pas même les gens dans la maison savent pas ce qu'ils lisent, savent pas ce qu'ils... Alors que si c'est à la radio ou à la télévision ou sur Internet, tout le monde entend que tu es en train d'écouter ça, que ce que tu fais d'écouter ça, ça n'a pas de bon sens. Tu prends le livre. Alors Jacques Vallée, je comprends sa démarche, son choix d'être privé.
Mais c'est dommage, intime. Parce que, si tu veux, toutes ces personnalités qui sont vraiment brillantes et qui ont apporté beaucoup à l'ufologie, elles ont tellement été malmenées à une période, elles ont tellement vu l'ufologie malmenée, que maintenant, elles privent des postes comme le tien ou comme le mien de leur lumière. Et moi, je trouve ça dommage. Donc, j'en appelle encore à tous ceux qui pourraient me faire venir Jacques Vallée ici. Je le recevrai avec plaisir et en toute, comment dire, avec beaucoup de respect, comme on le fait à chaque fois avec mes invités. C'est-à-dire que moi, je suis pas là pour me moquer, encore une fois. Je suis là pour découvrir, pour poser des questions. Et on est un peu... malheureusement victime hein, de certaines personnes qui, avant nous, ont mal mené l'ufologie.
Et remarque, Bob, que le fait que toi, tu as un club privé, les gens payent pour aller écouter les entrevues, c'est un peu à mi-chemin entre le livre qui est privé à la personne qui le lit et les médias ouverts. Bien alors, sûr. La même chose pour moi avec le club créé, qui est le club de recherche et d'études en ésotérisme expérimental. Les gens qui ont payé pour entrer dans le club, ils entendent, ils voient des entrevues, des choses exceptionnelles qu'on peut présenter à ces gens-là qui ont payé. Alors, pour Jacques Vallée, qui doit sans doute t'écouter, sans doute, parce que tu as des très bons invités, tu as des sujets, c'est travaillé, c'est présenté dans le respect. Moi, j'ai failli avoir Jacques Vallée, c'est qu'on a, quand il est venu ici au Québec, en conférence, avec quelqu'un qui avait tellement mal organisé qu'il n'y avait personne dans ses salles.
Ah, merde!
Et Jacques est retourné, puis il était très, très, très déçu. Et moi, je voulais faire un arrangement avec l'organisateur, en lui disant, moi, je fais venir Bud Hopkins, que j'ai amené 6 salle comble, et j'ai dit, on va faire un échange, je te prête Bud Hopkins pour une conférence, prête-moi Jacques Vallée pour une conférence, moi j'aurais eu une salle comble avec Jacques Vallée. Et le type est disparu de circulation, mais Jacques a été marqué par ça, et ça n'a pas été bon. Et moi je sens que Jacques, s'il nous écoute, et il parle très bien français, il sait très bien ce qu'on se dit, le fait d'être dans un club privé, ça n'est pas sur la place publique. Et Jacques peut participer, c'est comme Jean-Pierre Petit, ça t'a pris un peu de temps avant de l'avoir, et je connaissais bien Jean-Pierre, puis à un moment donné, j'ai dit, on lui a passé le message comme on fait présentement pour Jacques Vallée, en disant, écoutez, c'est pas pour être diffusé sur la place publique, ça va être réservé qu'à des gens intéressés par le sujet, et personne à l'extérieur, mais personne n'a le droit d'aller prendre ça et de le diffuser en disant, j'ai entendu dans le club de Bob, Jacques Vallée qui est allé, non, t'as les droits d'auteur là-dessus, t'as la restriction que tu peux imposer, personne n'a le droit de diffuser ça.
Non, mais c'est ça, en plus, ça devrait les inciter à venir, parce que c'est vrai que tous les gens qui sont abonnés à nos médias respectifs sont des gens qui sont intéressés. Pour ça que, vous savez, moi, j'ai discuté avec Philippe Marlin, qui est le directeur de L'Œil du Sphinx, qui est une boîte d'édition. Il me disait, quand tu as fait l'émission avec Claude Haar sur Ingo Swann, j'ai vendu plein de bouquins dès le lendemain. C'est-à-dire qu'en fait, les gens qui écoutent cette émission sont des gens qui sont intéressés. Donc, fatalement, ils devraient venir, parce qu'ici, on n'est pas là pour se moquer. On est là, au contraire, pour faire grossir notre connaissance. Mais voilà, c'est ça.
Oui, et ce n'est pas sur la place publique. Tu sais, il y avait une vieille formule autrefois dans la région qui disait « on ne jette pas les perles aux pourceaux Non, c'est une phrase claire, là, lapidaire, mais oui, effectivement, l'information doit être transmise, mais comme on disait tantôt, savoir oser se taire. Ouais. Dans certains domaines, on est mieux de pas parler, les gens sont pas prêts. Comme on dit, il y a certains films, il y a des documents, on dit il faut pas présenter ça à des enfants, ils sont pas prêts à entendre et à voir ces choses-là. Bon. OK, n'en parlons pas. Et je voulais te demander, Bob, ta permission, très officiellement, que je puisse diffuser l'entrevue qu'on vient de faire ensemble sur sur mon site pour faire une promotion durant la dernière semaine avant le congrès.
Sans aucun problème. Voilà, cette émission sera en accès libre chez toi là-bas. Je te la donne. Tu fais ce que tu veux. Voilà, c'est normal que l'on se rende service. Dans tous les cas, on va être obligé de se quitter parce que on arrive du côté de minuit. Je voudrais te remercier mille fois d'être venu et puis de m'accueillir avec je suis sûr, beaucoup de plaisir là-bas du côté de Montréal. J'arriverai vers 12h et quelques heures canadiennes québécoises.
Un petit mot, écoute.
Au grand auditorium du Collège de Maisonneuve à Montréal.
On attend une météo extraordinaire de soleil autour de 25-30 degrés à tous les jours que tu vas être avec nous.
Mais c'est normal, hein, dès que j'arrive dans un endroit, il fait beau. Hein.
Eh oui, bravo. Et salutations à Mathieu qui malheureusement ne pourra pas venir comme
ben oui.
On avait dit au début.
Ben, il
viendra il va être avec nous virtuellement.
Oui. Et il viendra la prochaine fois, c'est promis. À bientôt.
Merci.
Ciao.
Certains ont voulu le faire taire. C'était mal le connaître. Tous les soirs, 21h minuit, Bob vous dit toute la vérité.
Dans un instant, l'actu, la rédac et vous.
Bob vous dit toute la vérité tous les soirs, de 21h à minuit. Après, plus rien ne sera jamais pareil.